Le martyr de Kerbela. Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Kerbela est le nom de l'endroit où le petit-fils bien-aimé du prophète Mohammed, Dieu le bénisse, lui et les siens, mourut en martyr en compagnie des plus proches parents de la sainte famille du prophète et de fidèles compagnons, tous massacrés par la soldatesque du calife usurpateur Yazid, fils de Moawiya, qui réduisirent ensuite en captivité les femmes et les enfants survivants du massacre.
Ashura est le 10e jour du mois islamique de Muharram, au cours duquel ce martyr eut lieu, et au cours duquel il est toujours commémoré avec la plus grande ferveur par les fidèles de la famille du prophète, Dieu le bénisse, lui et les siens.
Kerbela et Ashura sont ainsi le cœur palpitant des fidèles des gens de la demeure prophétique. Par qui nous vient la paix? Cœur palpitant qui n'a cessé au cours des siècles de maintenir en vie l'esprit de justice et de vérité, et continuera de le faire jusqu'au dernier jour de ce monde.
Plutôt qu'à une analyse historique qui ne peut qu'escamoter les dimensions les plus spirituelles et les plus humaines de cette tragédie, c'est à un récit que nous vous convions. Un récit semblable à ceux qui se transmettent depuis des siècles dans les réunions commémoratives du martyr de Kerbela. Mais avant de commencer, nous vous invitons à goûter quelques propos des gens de la demeure prophétique, que la paix soit avec eux, et quelques vers d'un de leurs fidèles poètes.
Ahmad ibn Hanbal, grand collecteur des faits et dire du noble prophète Mohammed, Dieu le bénisse, lui et les siens, rapporte dans son Musnad que l'imam Ali, que Dieu ennoblisse son visage, a dit
« Un jour que j'entrais chez le messager de Dieu, Dieu le bénisse, lui et les siens, ses yeux débordaient de larmes. Je lui demandais. » Ô messager de Dieu, quelqu'un t'aurait-il fâché? Pourquoi tes yeux débordent-ils de larmes?
L'ange Gabriel vient de me quitter. Il m'a raconté que mon petit-fils Hossein sera tué au bord de l'Euphrate. Veux-tu que je te fasse sentir de la terre où il sera tué? Me dit-il. Je répondis que oui. Il tendit alors la main, prit une poignée de cette terre et me la donna. Alors je n'ai pu empêcher mes larmes de couler.
Il est aussi rapporté de l'imam Ali ibn Moussa Riza, petit-fils de l'imam Jafar Sader, lui-même arrière-petit-fils de l'imam Hussein, la paix soit avec eux, qu'il a dit.
Durant ce mois, les Arabes d'avant l'islam s'interdisaient de faire la guerre. Et voilà qu'après l'islam, ils se sont permis d'y verser le sang de la famille du prophète, qu'ils y ont porté atteinte à nos dignes épouses, qu'ils y ont capturé nos femmes et enfants, et qu'ils y ont mis feu à nos tentes et pillé ce qui s'y trouvait. Ils ne firent en rien preuve du respect dû aux messagers de Dieu en ce qui nous concerne.
En vérité, le jour de Hussein a meurtri nos paupières et fait couler nos larmes. Celui qui nous est cher a été avili en une terre de Karbala, qui nous laissa en héritage l'affliction et l'épreuve jusqu'au jour où tout sera fini. Que ceux qui pleurent, pleurent donc sur quelqu'un comme Hussein, car de pleurer sur lui diminue les grands péchés.
Lorsqu'on entrait dans ce mois, jamais on ne voyait mon père rire. Il était dominé par la peine jusqu'à son 10e jour. Et lorsque ce jour arrivait, c'était pour lui une journée de malheur, de tristesse et de pleurs. Et il disait, c'est le jour en lequel on a tué Hussein.
Le grand cheikh égyptien Al-Busiri, auteur de la célèbre Qasida, connue sous le nom d'Al-Borda, a également composé un autre grand poème faisant l'éloge du prophète, Dieu le bénisse lui et les siens, connu sous le titre de Al-Hamziya fi Madhiya Khariye i Bariya, poème rimant en Hamza à la gloire de la meilleure des créatures. Voici quelques vers de ce dernier poème dans lesquels le cheikh s'adresse au prophète, Dieu le bénisse lui et les siens, en évoquant les malheurs qui s'abattirent sur ses deux petits-fils, les imams Al-Hassan et Al-Hussein. Que la paix soit avec eux.
Et toi aussi, pleure-les donc, autant que tu peux les pleurer, car c'est bien peu que de pleurer quand le malheur est aussi grand.
Chaque journée et chaque terre, de par mon affliction pour eux, est Kerbela et Ashura, de par mon affliction pour eux.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Le récit commence en Irak, dans la ville de Koufa, qui est alors une des deux métropoles du pays. Nous sommes dans les derniers jours de l'année 60 de l'Hégire, l'an 682 de l'ère chrétienne, moins de 50 ans après la douloureuse disparition du prophète Mohammed, Dieu le bénisse, lui et les siens.
Habitants de Koufa, ayez pitié de vous-mêmes. Dispersez-vous, voilà les troupes de Syrie envoyées en renfort. Dispersez-vous avant qu'elles n'entrent dans la ville. Abandonnez cette rébellion insensée. Abandonnez Mouslem, fils de Aqil, et rejoignez nos rangs. Ubaydullah, fils de Ziyad, saura vous en récompenser. Mouslem est un homme mort et quiconque le soutiendra d'une façon ou d'une autre sera exécuté. Et ses biens confisqués. Habitants de Koufa, n'attirez pas le malheur sur vos têtes.
Le héros qui, du toit de la citadelle, avait crié ces mots, se tut. Toute la journée déjà, les agents du gouverneur s'étaient succédés auprès des diverses tribus pour les décourager et les amener à changer de camp. Mouslim vit peu à peu les rangs se dégarnir autour de lui. De tous côtés, les femmes elles-mêmes venaient chercher leurs hommes, cet état qui ramènerait un fils, un frère ou un mari.
Quand l'appel à la prière du soir s'éleva des minarets, Moslem entra dans la mosquée avec la trentaine d'âmes qui lui restaient. Il leva les mains pour le takbir d'entrer dans la prière.
Allahu Akbar.
Après avoir fini sa prière et les invocations qui y font suite, il se retourna et vit la mosquée vide. Les derniers fidèles s'éclipsaient l'un après l'autre.
La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Point de force ni de puissance, hormis par Dieu le Très-Haut, l'Immense.
Moslem sortit, seul, dans les rues de Koufa, errant sans savoir où aller dans cette ville où il n'était plus qu'un étranger indésirable, un rebelle recherché par les hommes de main du gouverneur Ubaydallah, fils de Ziyad. Où trouver seulement un abri pour y passer la nuit? Au détour d'une ruelle, il vit une femme debout devant sa porte.
« Ô servante de Dieu, j'ai soif. Peux-tu m'offrir de l'eau ?»
La femme rentra dans la maison, puis ressortit avec un bol plein d'eau qu'elle tendit à cet homme. Celui-ci remercia et but. La femme rapporta le bol à l'intérieur et, revenant sur le pas de la porte, trouva l'homme assis sur le seuil, immobile.
« Ô serviteur de Dieu, n'as-tu pas bu à ta soif ?»«
Si, mère. »«
Alors, rentre chez toi. »
L'homme ne répondit pas. Elle répéta ses paroles, mais l'homme restait silencieux. Une troisième fois, elle insista, mais l'homme toujours ne disait rien.
« Pureté à Dieu, ô serviteur de Dieu, rentre donc chez les tiens, car il n'est pas convenable que tu sois ma part à cette heure de la nuit. Je ne le permettrai pas. »
L'homme se leva et dit,
« Je n'ai pas de foyer dans cette ville, ni de proches, pas même des amis. Étranger, je ne sais où aller. Ferais-tu œuvre de bien en m'hébergeant ? Peut-être pourrais-je ensuite t'en être reconnaissant. »
« Qui es-tu ? Que fais-tu ici ? »
« Je suis Muslim, fils de Aqil. Je viens de la ville de l'envoyé de Dieu. Les habitants de Koufa n'ont cessé d'envoyer des lettres à mon seigneur et maître, Hussein, fils de Ali, pour l'inviter à prendre la tête du soulèvement contre le calife Yazid, fils de Moawiya, jusqu'à ce qu'il m'envoie comme émissaire. Ils étaient des milliers à m'acclamer quand je suis arrivé. Aujourd'hui, pas un seul n'accepterait de me donner abri. »
Tu es Moslem, le cousin et l'émissaire du petit-fils de l'envoyé de Dieu. Entre vite dans ma maison, entre, te dis-je. Comment pourrais-je affronter Fatima, la resplendissante, au jour du jugement, quand elle me dira, Tawa, l'envoyé de mon Hussein est venu vers toi, pourchassé par les hommes de Yazid, sans amis, sans défenseur. Et tu l'as repoussé. Entre, te cacher chez moi, mon fils. »
Moslem entra et s'installa dans la pièce que Tawa venait de préparer pour lui. Il repassait dans sa mémoire les événements des derniers mois.
La mort du calife usurpateur, Moawiya, qui, au lieu de remettre le califat à l'imam Hussein, comme il s'était engagé à le faire, lors du traité qu'il avait signé avec l'imam Hassan, qui avait alors fait reconnaître son fils Yazid, cet ivrogne invétéré et dépravé notoire, comme calife de l'islam, comme successeur de l'envoyé de Dieu.
Le refus de l'imam Hussein de prêter allégeance devant les représentants de Yazid et son départ pour la Mecque, accompagné de toute sa famille, afin d'y trouver refuge à l'ombre de la Sainte Kaaba, en ce lieu saint où il est interdit de faire couler le sang.
Les lettres des habitants de Koufa assurant l'imam de leur dévouement et de leur fidélité. La méfiance de l'imam devant ses appels venant d'une ville qui avait déjà trahi son père, l'imam Ali, et son frère, l'imam Hassan. L'insistance des missives se succédant les unes après les autres, portant les signatures de toutes les personnalités de la ville et de toutes les tribus.
Que dire devant les hommes? Que répondre au jour du jugement? Les fidèles semblaient prêts, la victoire à portée de main. Pourquoi alors n'avoir pas répondu à l'appel? Bien que sachant à quoi s'en tenir, l'imam ne pouvait plus refuser.
Et voilà que Koufa trahissait à nouveau. Comme s'il pressentait que cette nuit serait pour lui la dernière, Mousselem décida de la veiller en prière.